Notre invitée ce matin, Christine Lethis, bonjour.
Bonjour.
Directrice régionale sud-est de Citeo, l'entreprise qui est chargée de développer le tri en France. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1 pour un 8-30 un peu particulier, 8-30 format junior, puisqu'aujourd'hui ce sont des jeunes d'unicité éco-volontaires en service civique dans les Alpes du Sud qui vont vous poser certaines questions. Quelques chiffres quand même, Christine Lethis, avant de leur laisser la parole. En 2023, en moyenne, les Français, les habitants pardon, de la région ont trié 56 kilos d'emballages ménagers et de papier, ce qui fait de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la 12e en France. Ça n'est quand même pas fou comme classement.
Alors, 56 kilos par habitant.
Oui, bien sûr, on précise, c'est par habitant.
Je vous taquine, mais c'est vrai, c'est pas un résultat foufou, mais c'est un résultat qui est en forte progression, et notamment dans les Alpes. Je sais que c'est notre sujet d'aujourd'hui, donc dans les Alpes de Haute-Provence, on est déjà à presque 72 kilos par habitant sur l'année d'emballage et de papier qui ont été triés. Et dans les Hautes-Alpes, on est presque à 116 kilos. Donc vous voyez, les Alpins tirent vers le haut cette région qui, malgré tout, progresse. Et progresse justement grâce à notre accompagnement, nous, Citeo, et aux collectivités.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette différence tout de même de plus de 40 kilos entre le 0,4 et le 0,5?
Alors, j'allais dire parce que, historiquement, les Hautes-Alpes sont toujours parties. Il y avait un portage politique fort, une organisation du dispositif de collecte qui était déjà très mature et qui sont en train encore de pousser plus loin avec d'autres leviers sur lesquels on les accompagne, et je crois que j'aurai l'occasion de vous en parler après. Les Alpes de Haute-Provence ont voulu rattraper, et avec beaucoup de conviction, leur retard. D'abord avec la simplification, vous savez, des consignes de tri. Maintenant, à partir du moment où c'est un emballage, on ne se pose pas de questions, on le met dans le bac jaune. Quand il s'agit d'un emballage en plastique, en métal ou en carton, et puis quand il, et même le papier, et puis quand il s'agit d'un emballage en verre, on le met dans le bac vert. Et puis, le deuxième département est en train de rattraper avec une communication de plus en plus forte pour expliquer simplement à l'habitant ce qu'on attend de lui pour contribuer à son niveau à cette économie circulaire.
Alors, on parlait justement du plastique. Et ben directement, je pense qu'on va pouvoir en parler dans l'une des questions qui vous ont été posées. Avant cela, tout d'abord, une question sur le recyclage. Je vous propose de l'écouter.
Bonjour, moi c'est Elsa. Et ma question, c'est comment sont recyclés les déchets et quel est le coût énergétique?
Alors, comment sont recyclés les déchets? Tout d'abord, une question toute simple, mais qui pour autant, pour certains, donne parfois un peu d'imagination.
Oui, alors merci à Elsa pour cette question tout à fait légitime. Bien, d'abord, il y a une première étape, c'est le fameux geste de tri qu'on attend de l'habitant, qui est de mettre les emballages sans se poser de questions dans le bac de tri. Seconde étape, la collecte et les emballages. La collecte des emballages et des papiers, donc qui vont être faits par les collectivités. Tout ça va être emporté vers la troisième étape qui est le centre de tri. Et pour les Alpes, c'est à Manosque que ça se passe. C'est un site industriel qui va séparer les emballages et les papiers par matériaux. Et tout ça après partira sera mis en balle et partira vers des usines de recyclage pour pouvoir récupérer cette matière première, moins ponctionner les matières d'origine, je dirais moins ponctionner finalement la terre, et partir de cette matière qu'on aura récupérée des emballages et des papiers pour recomposer des futurs emballages et des papiers. Et les bénéfices, quel coût énergétique, moi je peux donner quelques bénéfices qui sont dus à cette économie circulaire auxquels contribue aussi le citoyen, c'est 4 millions de tonnes d'emballages qui ont été recyclés en France en 2023, c'est 2,3 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées, c'est l'équivalent à peu près d'un million de voitures qui ont circulé en moins en France. On peut trouver une autre comparaison, c'est à peu près 8400 gigawattheures de consommation économisée en termes d'énergie. Et ça, c'est l'équivalent d'une consommation d'énergie de la taille de la métropole d'Aix-Marseille, à peu près 2 millions d'habitants. Ou encore, c'est pour le papier, moi je dirais ce comparatif, c'est 19 milliards de litres d'eau qui ont été économisés grâce au recyclage des papiers. Et ces 19 milliards, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas très loin des Jeux Olympiques, c'est l'équivalent de 6400 piscines olympiques. Donc voilà les bénéfices en termes de recyclage.
Deuxième question, Christine Lethis.
Bonjour, je suis Nora, éco-volontaire en service civique à Unicité. Du coup, ma question, c'est dans les déchets triés, combien sont réellement recyclés? Parce qu'on entend beaucoup dire que ça sert à rien de trier parce que tout n'est pas recyclé.
On entend souvent ça, c'est
alors
vrai.
Non. Oui, alors Nora a raison, hein. Il y a beaucoup d'idées, encore d'idées préconçues ou de vieilles idées qui perdurent, qui ont la vie dure. En fait, en vrai, et nous on est garant de ces chiffres pour l'État et pour toutes les parties prenantes, c'est 60%, 67% des emballages ménagers qui ont été recyclés en 2023 et 67% des papiers graphiques. Il faut bien se resituer dans l'histoire. Cette économie circulaire, elle a un peu plus de 30 ans. Il y a même 50 ans, on ne recyclait que le verre.
Et donc c'est tout jeune.
Il y a 30 ans, on s'est mis... Voilà, tout ça est en train de prendre forme. Et effectivement, tout ce que vous mettez dans le bac, dans les bacs de tri, vont bien aller après dans les centres de tri tels que je vous l'ai décrit, pour être recyclés, et on recycle de plus en plus.
Une nouvelle question, Christine Letil, je vous propose de l'écouter.
Bonjour, moi c'est Justine, éco-volontaire à Unicité, et ma question c'est, encore en 2023, un tiers des déchets organiques n'étaient pas valorisés. Est-ce que ce chiffre a évolué aujourd'hui? Et avez-vous vu une différence depuis l'obligation des communes à mettre à disposition des composteurs auprès des citoyens?
Alors, les déchets organiques, est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre dans vos missions ou absolument pas?
Alors, non, mais j'ai quand même une petite information à vous partager. D'abord, l'ADEME, qui est l'Agence de transition écologique, elle nous dit que 33% des Français ont désormais, depuis que la loi est rentrée en vigueur depuis janvier 2024, hein, janvier 2024, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 33% des Français qui ont maintenant une solution sur leurs biodéchets. En vrai, moi, le sujet, j'ai envie de dire, c'est encore un sujet de geste de tri. Il faut vraiment que les gens, dès qu'ils ont un dispositif, que ce soit un dispositif personnel, et je dirais que les poulaillers, les poules qui réduisent les déchets organiques en font partie aussi, il n'y a pas que les composteurs collectifs et composteurs individuels, eh bien, il va falloir trier, en fait, tout ce qui reste dans la poubelle d'ordures ménagères. Vous comprenez que l'enjeu, c'est de faire maigrir cette poubelle d'ordures ménagères pour enfouir le moins possible. Donc, ça va être sortir tous les emballages et le papier, et puis sortir ces déchets organiques.
Je vais vous poser une question, mais on dit très souvent, si vous faites maigrir vos poubelles, vous paierez moins. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai, mais c'est vrai si on utilise, non, si on utilise un levier formidable sur lequel s'intéressent de plus en plus les collectivités, notamment des Alpes, qui est ce qu'on appelle la tarification incitative. C'est le principe, en fait, de ne faire payer que ce qui reste dans votre poubelle d'ordures ménagères. Et ça, on le sait. Par rapport à des territoires qui sont partis déjà en tarification incitative, ça fait baisser les ordures ménagères, donc le coût des ordures ménagères pour l'administrer, ça fait baisser bien sûr, ça fait gagner en bénéfice pour l'environnement, et ça fait augmenter aussi, donc ça fait baisser à peu près de 20 à 50% pour les meilleurs trieurs, ça fait baisser les déchets, et puis ça fait augmenter la collecte sélective presque de 30%. En vrai, c'est aussi une maîtrise des coûts, vous parliez en fait finalement, est-ce qu'on va payer moins cher Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, on va payer toujours plus cher. Et il y a une augmentation de la TGAP, c'est la taxe générale des activités polluantes, qui est à la fois sur l'enfouissement et sur l'incinération. Donc, on est condamné, et c'est pour ça que les collectivités en responsabilité viennent travailler sur ces sujets, à venir plus impliquer le citoyen dans cette équation en disant plus tu tries, plus tu sors les choses de la poubelle grise, plus on va maîtriser les coûts et on va pouvoir finalement répondre à la loi qui est absolument de valoriser.
Mais ça n'est pas vu comme ça par tout le monde. Récemment, j'ai pu en parler avec certains présidents de communautés de communes, notamment dans les Hautes-Alpes, qui vont mettre en place en tout cas cette tarification incitative sur le poids des poubelles. Et d'autres élus disent « mais oui, mais c'est absolument pas pratique parce que ça encourage les décharges sauvages ».
Alors, vous avez raison. Il y a, certains appellent ça des idées reçues, moi je dirais des freins. Des freins, des bonnes questions que se posent ces élus. C'est vrai, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans les territoires qui sont déjà passés, et en forte majorité en Bretagne par exemple, ou dans les Pays de Loire, on voit très clairement que il n'y a pas de facture supplémentaire, l'usager ne va payer réellement que ce qu'il va laisser dans sa poubelle d'ordures ménagères, nonobstant le service global qui est de faire tourner quand même des camions pour tout le monde. Les dépôts sauvages, ils n'augmentent pas tant que ça à partir du moment où il y a une vraie organisation, une vraie sensibilisation, un vrai embarquement de tout le monde sur ces projets. Oui, c'est finalement l'accompagnement du changement. Mais les habitants, quand on communique avec eux, quand on prend le temps, il faut à peu près 3-4 ans pour mettre en place la tarification incitative. Il faut aller au-devant des habitants. Il faut avoir un dispositif de collecte, c'est-à-dire des poubelles à forte proximité, pratique, facile, où les consignes sont claires, et accompagner cet habitant. Et là, on s'aperçoit très vite qu'on arrive à limiter les dépôts sauvages très vite. Et puis, c'est-à-dire en dernier recours, et certains élus n'ont pas hésité à le faire pour les récalcitrants, ben, il y a eu la sanction, c'est-à-dire qu'ils ont eu des pénalités financières. Mais c'était un nombre qui était en diminution, parce que les habitants voyaient très bien que le résultat était là la fois d'après. Donc, c'est un accompagnement du changement qui nécessite du temps, de la pédagogie, des dispositifs, de la simplicité sur ce qu'on va utiliser pour embarquer notre habitant.
Christine Neutti, je vous propose d'écouter une nouvelle question d'Unicité.
Comment peut-on réemployer les déchets plutôt que de les recycler ?
Ah oui.
Alors, très bonne question. J'y tiens beaucoup parce que souvent, on assimile Citeo donc, uniquement au recyclage. Nous, le réemploi des emballages, ça, c'est vraiment important pour nous parce que c'est ce qui peut réduire l'impact environnemental. Alors, il y a trois types de, j'allais dire, de réemploi. Il y a le réemploi avec la consigne, celui qu'on connaît, qu'on connaissait historiquement, où là, on rapporte son emballage à un professionnel qui va, en fait, après, moyennant une consigne, qui va le transporter, le laver, le ré-remplir et va le remettre dans le commerce. Il y a le vrac, on oublie souvent, mais le vrac, c'est aussi avec du réemploi. Et là, c'est souvent l'habitant qui va apporter son emballage, son contenant, et puis il va repartir avec le produit à l'intérieur. Et puis, il y a un parent auquel on ne pense pas toujours, c'est la recharge. Et ça, ça a été énormément développé sous notre action auprès des metteurs en marché de ces emballages, qui est la recharge, par exemple, du flacon de lessive, et qui est très intéressant parce qu'on utilise beaucoup moins d'emballage, finalement, et on récupère du produit. Sur le réemploi, qui reste souvent associé dans l'imaginaire uniquement aux bouteilles de verre, ou de la bière, du vin, etc., ouais. Nous, on est en train de développer vraiment énormément de techniques au niveau des autres matériaux, c'est-à-dire l'inox, mais aussi le plastique, mais aussi le carton, parce que je pense par exemple à une petite start-up qui s'appelle Ipli par des jeunes femmes qui l'ont créée en France, qui est absolument formidable. C'est un colis 100 fois réemployable. Vous recevez quelque chose dans ce colis, vous le remettez par la poste, il repart, il resserre 100 fois. Donc vous voyez, même le carton peut être réemployé. Et nous, surtout, ce qu'on s'est donné comme feuille de route, c'est d'imaginer le dispositif de réemploi de demain, mais à l'échelle de toute la France. Et on a travaillé sur le plus grand test qui peut exister en venant activer 4 régions en premier, les Bretagnes, les Pays de Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, avec une foule d'acteurs qui sont à la fois les metteurs en marché qui utilisent ces emballages, la grande distribution, les gens qui vont mettre les machines de déconsignation de ces emballages, le transport, etc. Et c'est donc 16 millions de Français qui, à partir de dans un mois ou deux, là, dans ces régions, qui vont pouvoir trouver des emballages qui vont s'appeler des emballages Aircoeur pour les distinguer dans les rayons de ces magasins et pouvoir les ramener dans des machines de déconsignation. C'est 30 millions d'emballages que nous allons tester, nous allons tirer les enseignements. Et demain, nous irons à l'échelle, dans les années à venir, nous irons à l'échelle nationale, là, de façon à pouvoir pousser partout le réemploi où c'est possible.
Justement, la transition est toute faite avec cette dernière question.
Est-ce que la production de plastique par les entreprises tend à augmenter ou à baisser ?
Eh oui, parce que les plastiques, ça a posé problème pendant des années jusqu'à un certain temps, où maintenant on les recycle, mais c'est vrai qu'on trouve du plastique de partout.
Alors, vous avez raison. Déjà, il y a quelque chose à bannir. C'est nous, on travaille vraiment, vous l'avez compris, à travers le réemploi, à travers le fait de récupérer des matières plastiques pour les réinjecter et ponctionner moins de pétrole. On travaille pour réduire l'usage unique. C'est déjà l'usage unique. Sur les plastiques, il faut aussi entendre qu'on est, vous le savez, vous, en tant que journaliste, on est sur une baisse de la consommation des ménages sur 2024 et 2025. Ça se répercute forcément sur tous les secteurs de l'emballage alimentaire, des boissons, des cosmétiques, où il y a beaucoup de plastique. Parallèlement, la France vise de réduire de 20% les emballages plastiques à usage unique, je vous disais. Donc, nous, on travaille sur l'éco-conception en amont avec ces entreprises pour améliorer leur recyclabilité. Et on travaille vraiment à réduire ces emballages. Donc, il y en a moins, J'en veux pour preuve qu'on utilise de plus en plus de carton à la place des plastiques. On voit bien que le recyclage du carton monte aussi parce que la consommation d'emballage carton monte en substitution à ceux qui étaient en plastique avant. Et donc voilà, on est vraiment en tout cas en train d'accélérer sur ces sujets.
Voilà, Citeo qui réfléchit pas qu'au recyclage, on l'a bien compris aussi au réemploi. Merci oui. beaucoup Christine Letty, directrice régionale de Citeo, de vous être prêtée au jeu hein, de ce 830 junior, je rappelle, hein, donc directrice régionale de Citeo, entreprise chargée de développer et le tri et le réemploi en France. Merci.